Et tu exerces en tant que sociologue dans le civil, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Alors, Eric, je t'ai proposé de participer à cette émission parce que, forcément, tu as des choses à dire autour du blues. Moi, par rapport à tes choix, à tes deux choix qui sont essentiellement américains, hein, pour les deux, oui. J'aurais à rebondir. Un garçon comme Fenton Robinson, moi, je me souviens de ce monsieur au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la musique, mais il n'est pas vraiment connu des jeunes générations, Fenton Robinson.
Ben non, c'est bien dommage d'ailleurs, c'est bien dommage. Il y a tout un pan de l'histoire du blues et des grands, grands artistes du blues qui, toute une génération, plusieurs générations même, qui sont aujourd'hui un petit peu oubliés, un petit peu passés sous silence. Bien sûr, on parle toujours des mêmes, à juste titre, hein. Joe Bonamassa, par exemple, rend des hommages à ceux qu'il appelle les trois kings, Albert King, B.B. King, Freddie King, ouais. Muddy Waters, Solin Wolf. Donc il a fait ça, mais c'est vrai que sortis de là, les artistes sont un peu, je dirais pas ignorés, mais en tout cas c'est sûr oubliés des jeunes générations. Voilà. Et donc par exemple, je vois qu'un Walter Trout aujourd'hui sort des disques avec le répertoire de Luther Allison, sort sur son nouvel album Survivor Blues, il y a une reprise de Jimmy Dawkins, et ces gens-là, ces artistes-là sont des bluesmen tout à fait talentueux, originaux, et dont il faut se souvenir, dont il faut écouter la musique aujourd'hui, parce ouais. qu'elle vaut tout à fait celle des B.B. King, Albert King, Muddy Waters, c'est tout.
C'est ça, parmi les... T'es toujours avec nous, Eric?
Bien sûr, oui.
Parmi les artistes, parmi les amateurs de blues, j'ai l'impression qu'il y a de temps en temps un peu des gens qui s'affrontent sur la légitimité de certains, comme ceux que tu as cités, de pouvoir reprendre le flambeau de ces créateurs dont on parlait. On parle de Luther Allison, on parle des Trois Kings, etc. Est-ce que, pour toi, c'est une querelle qui se justifie ou est-ce que, vraiment, le problème est ailleurs et il faut avancer, il faut aller de l'avant?
Non, chacun écoute, de toute façon, chacun écoute bien ce qu'il veut. Et le blues, de toute façon, c'est une musique qui a un sens, qui a une réalité historique, sociologique. Voilà, c'est né dans un certain milieu. C'est les Noirs américains qui ont créé ça dans certaines conditions. Aujourd'hui... on n'en est plus là, je vais dire heureusement, parce que heureusement que les Noirs américains peuvent, aujourd'hui, les musiciens de blues savent bien écrire, ils ont souvent un apprentissage savant de la musique, hein. Donc les choses changent, par contre, et le blues, bon, bah, ceux qui écoutent les fans de Johnny Hallyday pourront vous dire que Johnny fait du blues, les fans de AC/DC peuvent vous dire que AC/DC fait du blues, etc., etc. Les fans de... Là, il y a un livre qui va sortir de Stéphane Deschamps, des Inrecuptibles sur le blues, où il explique que les Touaregs font du blues, que les White Stripes, c'est du blues. Bon, ça projette beaucoup de fantasmes et chacun, en fait, bricole un peu l'image du blues qu'il veut bien se faire. Mmh. Donc moi, ça me dérange pas. Chacun écoute ce qu'il veut, appelle ça du blues ou pas. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est d'oublier un peu tous ces grands artistes qui sont de grands bluesmen, mmh. Comme Jimmy Dawkins, on a cité Son Seals et tout ça. Ce qui est intéressant avec quelqu'un comme Walter Trout, que j'ai cité tout à l'heure, c'est que lui, il a un côté très rock, il parle au public rock, hein, c'est un guitariste qui donne dans les décibels, etc. Mais il n'oublie pas justement tous ces gens-là. Donc voilà.
En même temps, Walter Trout, il a été un petit peu à l'école John Mayall, il a fait partie des Blues Breakers pendant quelques années, ça vous forge un homme ça quand même.
Voilà, puis avant ça, il a joué dans le groupe de Johnny Hooker avec Big Mama Thornton aussi, avec Kennedy. Bon, voilà, donc c'est quelqu'un de tout à fait légitime. Alors voilà. Après, on aime ou pas sa musique, peu importe, mais voilà, moi, j'écoute pas ça tous les jours. Des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime moins, bon, voilà, comme tous les artistes.
Voilà, c'est une question de goût, et puis les débats d'école sont un petit peu vains, c'est ça que tu veux dire en fait, en synthèse?
Non, c'est pas vain, parce qu'on se fait aussi plaisir, des fois autour d'un verre, entre amateurs de blues, à débattre.
Si tu étais là, Eric,
donc
déjà.
Ça, c'est jamais vain.
Si tu étais là dans les studios du 666 avec nous, déjà, tu aurais un verre à la main, ça serait une bonne chose. Et en plus, on pourrait débattre ensemble, parce que on peut le faire.
Ah bah, tout à fait.
Grâce à la magie du téléphone. On va écouter un titre que tu as choisi, puis je te reprendrai au téléphone juste derrière, si tu veux bien. Il s'agit de Fenton Robinson. Tu peux nous en parler en deux mots, un garçon de l'école de Chicago Blues, pur et dur, on va dire.
Même Fenton Robinson, c'est bien au-delà du Chicago Blues. Hein.
C'est de la soul.
C'est à lui aussi qu'on doit Texas Flood, notamment popularisé par Stevie Ray Vaughan, etc.
C'était pas Larry Davis.
Il y avait Fenton Robinson à la guitare, voilà.
Ah voilà, oui, oui.
Mmh. Il a fait aussi As the Years Go Passing By, tout plein de standards comme ça. Et puis il a été son premier grand album, c'était sur au début du label Alligator.
Ouais.
Et l'extrait vient de là. Et moi, c'est un des morceaux que j'ai découvert sur le double CD, la compile. À l'époque, j'avais une quinzaine d'années.
L'anniversaire d'Alligator, c'est ça?
Voilà, les 20 ans du label Alligator.
C'était en 91.
Ouais, 90-91. Oui, 91, c'est vrai, 91, c'est ça. Et c'est un des nombreux morceaux de l'album qui m'ont plongé dans le blues. Donc j'ai acheté après les albums de Fenton Robinson, etc. Et voilà, donc c'est un guitariste merveilleux, un super chanteur, et un interprète, un bluesman de vraiment de premier plan. Et je me rappelle de ce mois de... en 1995, de ce mois de mars, je crois, 1995, où on a eu la chance d'avoir des concerts, notamment il y avait le concert de Clapton à Bercy dans son répertoire blues, avec Get Mars Brown en première partie. Puis quelques semaines avant, on avait vu au Méridien Fenton Robinson. C'était la dernière fois qu'il est venu en France. Et donc voilà, donc je voulais lui rendre hommage, et c'est un super morceau.
Très bien, Eric, merci. On te reprend juste derrière. Voici You Don't Know What Love Is, Fenton Robinson.
Beautiful picture still in my mind. beautiful picture still lives my mind. Oh, brother, you just don't know what love is until you really fall in love one time.
Voilà, on se lasserait pas d'écouter et de réécouter Monsieur Fenton Robinson. Toujours au téléphone avec Eric Douady. Eric ?
Oui, je suis toujours là. Ouais.
Voilà, ce disque-là, tu l'écoutes régulièrement ou de temps à autre, tu reviens ?
Oh ben oui, bien sûr. Ça fait partie des grands albums Somebody Loaned Me a Dime, c'est de Fenton Robinson, 74.
Et Hear Some Blues Downstairs aussi, avec une pochette phénoménale. Oui,
celui d'après, tout à fait. C'est des grands classiques vraiment qui prennent pas une ride. Hein.
Alors, en dehors du fait de revenir sur des vieux disques, parce que celui-ci, il a plus de 40 ans, ouais. Tu t'intéresses, on l'a compris aussi, au blues actuel. D'ailleurs, tes chroniques dans Soulbag en témoignent, le montrent. Tu t'intéresses à ce que les jeunes artistes font du blues, à une musique qui continue à se pétrir au fil des années. Ça fait plus de 100 ans que le blues existe, et à mon avis, il y en a encore pour une autre bonne centaine d'années. Quels sont les artistes actuels qui te font vibrer, que ce soit sur la scène européenne ou américaine actuellement, Eric ?
Oh ben, j'écoute pas que du blues de toute façon, mais il y a beaucoup de. Alors là, on pourrait prendre des dizaines de noms. Mes artistes qui me tiennent le plus à cœur aujourd'hui sont Derek Trucks et son épouse Suzanne Tedeschi, avec leur groupe qui repasse en France là au mois d'avril, si je ne m'abuse, qui sortent un nouvel album dans quelques semaines, deux semaines je crois, qui j'ai eu la chance d'écouter et qui pour moi va être le disque de 2019. Je vois pas trop bien comment on peut faire de meilleurs disques que ça cette année. Mais bon, c'est le fan qui parle.
Oui.
Donc voilà, eux, c'est vraiment parce qu'ils allient tout ce que j'aime dans la musique. Mais on pourrait parler de, même si on se limite au blues, à plein d'artistes, de quelques artistes comme Chemeka Copeland, qui est jeune aussi, Garrick Park Jr., qui lui aussi sort un nouveau disque là dans quelques semaines. Il y a plein d'artistes.
Alors ces artistes-là, tu les écoutes, tu vas les voir sur scène également, tu as des souvenirs comme ça d'artistes que tu as vus sur scène. Allez, un coup de cœur parmi les premiers que tu as pu découvrir et un coup de cœur parmi les tout derniers, on va dire, sur les deux dernières années, Eric.
Oh ben parmi les premiers que j'ai pu découvrir, moi j'ai un grand souvenir de Luther Allison.
Grand parmi les grands, effectivement, oui.
Ouais, tout à fait, qui faisait des concerts de 3 heures, oui. qui était absolument merveilleux, bien sûr à l'époque, donc je parle de ça fin 80, début 90, hein, les tournées d'artistes qu'on avait la chance de voir souvent en France, comme les Eddy Clearwater, tout ça, ça c'est des Jimmy Johnson, c'est des gens qui vous marque, puis c'était l'époque vraiment des où on pouvait voir voilà tout régulièrement en fait tout un tas de grands bluesmen.
Oui, parce qu'on le dit pas assez, mais il y a quand même eu une sorte de mini blues boom dans les années 80 grâce à un certain Stevie Ray Vaughan, je crois.
Oui, tout à fait, voilà. Et donc il y avait des concerts, il y avait voilà, donc ça m'a beaucoup marqué. tous les deux mois, voilà, dans une petite ville en province comme là où j'étais, tous les deux mois, il y avait un concert de blues avec vraiment un grand bluesman, quoi. Voilà, donc c'était important.
Et à l'heure actuelle, sur les deux dernières années, des souvenirs marquants, Eric ?
Sur les deux dernières années, on va dire... tiens, c'est marrant, en fait. C'est marrant, je parle de ça. Je parlais tout à l'heure des Touaregs. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Bombino. Mais c'est pas du blues. Dans le registre blues, moi, j'ai beaucoup été marqué au festival Blues Rules en Suisse, qui a lieu tous les ans fin mai, début juin.
Ouais, à Crissier, ouais.
À Crissier, voilà. J'ai beaucoup été marqué par Robert Kimball Senior, le fils d'un bluesman que j'admire, qui compte parmi mes préférés, Junior Kimbrough.
Ouais, et le fils de Robert Junior, Robert Senior, qui est le fils de Junior. C'est assez
voilà,
bizarre,
c'est, ouais. C'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué, mais Junior, il avait 36 enfants, donc
et il y en a d'autres qu'il n'a pas reconnu, dans le Delta, il y en a qu'il n'a pas reconnu. Il ne se souvient pas de tous les endroits où il est allé, en fait. Mais voilà. Ça fait partie du truc, je crois, le Delta du Mississippi.
Donc l'idée, c'est qu'il y a quand même aussi toute une génération, mis à part les premiers noms que je viens de citer, des Ski Trucks et tout ça, chez Mekia Copeland, Gary Clark Jr., qui sont des gens plutôt visibles, dont on entend parler. Leurs disques sont disponibles en France, etc. Ils viennent nous faire des concerts en France. Par contre, il y a aussi toute une scène blues qu'on peut dire underground, avec des gens dans le Mississippi, avec des gens comme Robert Kimbrough, Cameron Kimbrough, le petit-fils de Junior Kimbrough, Cédric Burnside, qui va être en concert à Paris là dans 15 jours, et qui sera à l'affiche du Blues Rules cette année. Il y a quand même toute cette scène aussi un peu underground dont les médias ne nous parlent pas, nous les disques sont plus difficiles à trouver, mais qui est super intéressante et très inventive, parce qu'elle mêle au son du Mississippi, on va dire traditionnel, plein de sonorités contemporaines.
Alors ça nous éclaire beaucoup et ça nous donne aussi un aperçu de tes goûts musicaux. Des goûts que tu fais partager aux lecteurs de Soulbags, c'est une activité qui compte beaucoup pour toi, le fait de partager ta passion pour le blues avec les lecteurs de ce magazine ?
Oh ben, bien sûr, comme pour toi, je pense.
Oui, si tu me poses la question, je te dis oui.
Donc, c'est un plaisir. Et puis, après, c'est aussi l'occasion de rencontrer ces artistes, de leur parler, de les interviewer. C'est aussi un rêve de fan. Hein, je veux dire, je me suis lancé à la base dans cette activité. C'était en 97, 96, je ne sais plus, mais c'était aussi pour. En tant que fan, un peu côtoyer ces gens-là et leur poser des questions que je voulais leur poser. Donc c'est un peu égoïste aussi. Hein.
Oui, puis accessoirement, prendre des photos avec eux, avoir des dédicaces, ça c'est des choses qu'on aime bien conserver aussi, le fait d'avoir albums uniques finalement, parce qu'ils revêtent la signature de l'artiste. Ça fait partie de la panoplie du fan. Je sais qu'il y a des gens qui partagent d'autres moins. C'est ton truc, ça, de vouloir marquer par une empreinte, pourquoi pas celle de l'artiste, ta rencontre avec lui.
Oui, peut-être, oui.
C'est une bonne façon aussi de se rappeler des bons souvenirs, j'ai envie de dire, parce que quand on égrène sa discographie aussi, on se dit, bah tiens, oui, c'est vrai, le concert, oh là là, il y a combien de temps déjà, et que devient l'artiste, etc. Enfin bon, voilà.
Ça fait des souvenirs, voilà.
Eric, ta passion du blues, elle est débordante. Je pense qu'elle nous meut tous hein, autour de la table. Je peux te dire que là, les amis, Jacques, que ce soit Arnaud, François, Laurent, Charles, qui vient d'arriver avec son épouse. Voilà des gens qui aiment cette musique, qui la servent aussi. Je pense que on n'est pas meilleur fan que quand on sert sa cause. C'est ça, Eric, non ?
Oui, voilà. Voilà, après, moi, je dis pas que je suis pas dans le truc, faut garder le blues vivant, etc.
Si, un petit peu quand même.
Un petit peu, voilà, mais je pense que les artistes ont pas forcément besoin, enfin, leur musique parle pour eux, enfin, il faut aussi une posture d'humilité.
C'est pas nous les acteurs.
Qui gardons le blues vivant. Voilà, c'est avant tout c'est les artistes, leur musique.
Évidemment.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait connaître leurs disques. où on contribue en fait à ce qu'ils soient connus et à ce qu'ils trouvent leur public, mais c'est très mineur quand même comme rôle. C'est très mineur.
Mais pour certains d'entre eux, j'ai envie de dire, il y a quand même des gens qui ont été d'éminents ethnomusicologues. Je pense à notre collègue Gérard Herzard, je pense aux États-Unis, des gens qui ont travaillé à la bibliothèque de Congrès, qui ont enregistré pour la première fois des Muddy Waters. Ce sont des découvreurs de talent, des gens, je pense donc à Alan Lomax, et puis il y en a eu d'autres, les frères Chess. Enfin, on ne va pas refaire toute l'histoire du blues en deux minutes, Eric, mais il y a des acteurs aussi qui ont été de l'autre côté du micro, quand même.
Ah ben tout à fait, bien sûr, des acteurs majeurs, mais moi je me mets pas au niveau d'un David Evans, d'un Gérard Herzhaft ou d'un Bill Ferris, quoi, voilà, c'est ça.
Eric, tu as choisi pour terminer un titre de Elvin Bishop, un garçon qu'on écoute très très peu en Europe et qui vient très peu souvent nous voir, et pourtant un gars pétri de talent lui aussi.
Oui, ben il est venu une seule fois en France. C'était justement à côté de Dijon, à Talent, où on organise des concerts, et c'est nous qui l'avions fait venir. C'est la seule date française qu'il ait fait de sa carrière. Il était content d'ailleurs.
Alors que c'est un garçon qui a passé allègrement les 70 ans, je crois.
Ouais, là il arrive à 75, mais il est de la génération de Charlie Musselwhite. Voilà, c'est un des premiers à Chicago avec Mike Bloomfield. Paul Butterfield, Charlie Musselwhite, à aller dans les clubs où jouaient ces grands bluesmen, à aller sur Maxwell Street, côtoyer des Big Joe Williams, des Robert Nighthawk, des Muddy Waters, etc. Et qui a appris auprès de cette génération-là. Donc Bishop était un des guitaristes du Paul Butterfield Blues Band, donc avec Mike Bloomfield. Et puis après, il a contribué dans les années 70 à l'essor sur le label Capricorn de ce qu'on appelle le rock sudiste, avant de revenir au blues sur le label Alligator. Mais voilà, en fait, il a un petit peu souffert. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a pas trop vu chez nous? Pas du tout vu chez nous, parce qu'il fait partie aussi de cette génération de musiciens américains qui, paradoxalement, étaient trop blancs pour venir chez nous. C'est-à-dire que le public blues disait, bon, bah, des blancs qui jouent du blues, on en a assez en Europe.
Oui, d'accord.
Ouais. Avec les Anglais.
Ça, c'est le public qui disait ça, ou c'était les directeurs de festival, les organisateurs?
Les directeurs de festival, oui, le public, non, pas le public, mais les directeurs de festival. Donc, il était trop blanc pour certains programmateurs, et trop blues pour le circuit rock, quoi. Ouais. Voilà, donc, à l'inverse, par exemple, d'un Stevie Ray Vaughan qui avait un jeu beaucoup plus agressif, qui était très blues lui aussi, mais qui avait un jeu beaucoup plus agressif et qui pouvait parler au public rock. Donc voilà, il est trop blues, trop blanc pour certains, trop blues pour d'autres, ce qui fait qu'il n'a pas... On l'a pas vu ici, mais en tout cas, sa musique est de premier plan. Voilà.
Merci pour ça, Eric. Et puis, on se dit à bientôt sur la route du blues. En tout cas, continue toutes tes activités, continue à nous passionner, à nous régaler de tes interviews, parce qu'à chaque fois, il y a des petites anecdotes et des choses, voilà, qui remontent à la surface. Ta culture blues imprègne tout ton discours, Eric. Je t'en remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Marc, toi aussi.
À tout bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Merci, Eric.
Bonne journée.
Voilà, on continue avec un extrait de la discographie d'Elvin Bishop. Ça s'appelle I'll Be Glad, dans Sweet Home Chicago.
Get my groove back again. Oh, Lord, have mercy. back again.
Et oui, un artiste un peu méconnu ici en France et même dans le reste de l'Europe et qui pourtant compte pour le blues américain. Il s'agit de Elvin Bishop, un choix de Eric Douady. Merci encore à Eric qui a été notre second invité de l'émission. On va accélérer un tout petit peu les choses avec trois invités qui ont pris place autour du micro. Il s'agit de Laurent Choubrac. Salut Laurent.
Salut Marc, bonjour à toutes et à tous.
Également, deux invités qui viennent pour la toute première fois dans l'émission. Alors, je tiens à les saluer tout particulièrement parce que, bon, Laurent, toi, tu as ton rond de serviette depuis bien longtemps.
Oui, ça fait quelques années déjà.
On va accueillir François Dauphin.
Salut Marc, bonjour à toutes et à tous.
Et Arnaud Didier.
Bonjour.
Alors, merci déjà d'avoir répondu à tous à cette invitation pour l'anniversaire. Puis c'est l'occasion de discuter, que ce soit en tant que musicien, en tant que on va dire simple amateur de blues, en tant qu'organisateur de concerts, en tant que photographe. Enfin voilà, tous les gens qui agissent, qui sont pas forcément tous des acteurs de cette musique, mais en tout cas qui la soutiennent, sont importants à mes yeux et méritent d'avoir autant la parole les uns que les autres. Laurent, tu te qualifies plutôt toi comme musicien? On va dire, c'est ça en fait, ton activité principale.
Ouais, c'est l'idée principale.
Quand même.
Ouais, c'est l'idée principale. Le musicien, comme disait Jacques tout à l'heure, c'est un peu mon deuxième métier.
Ouais.
Pour celui qui me fait vivre, mais celui qui permet que quand j'achète des guitares, ça coûte pas trop cher au ménage, voilà. Mmh. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et puis il y a celui auquel je passe énormément de temps, quoi. Donc.
Et pour encore quelques mois, mais ça se tire un petit peu, on va dire.
Oui.
De ce côté-là.
Oui, ça sent un peu là.
Est-ce que tu vois le bout du tunnel?
Je commence à voir le bout du tunnel parce que déjà je bosse à mi-temps. Dans deux mois, donc là, ça va être vachement bien.
CPA.
Et puis après, on verra la retraite, mais ça va arriver bientôt. Donc,
François, même question. Tu te sens davantage musicien, davantage spectateur, davantage collectionneur. Quel est ton rôle dans le blues, finalement?
Alors, je ne sais pas si c'est un rôle, mais c'est en effet amateur de blues. Je suis tout sauf un musicien, mon grand regret, sûrement. Voilà, amateur, collectionneur, je ne sais pas, mais amateur du blues live, et donc des émotions de concert, notamment.
Même question pour Arnaud. Alors, voilà, que ce soit François, Arnaud, on se croise régulièrement dans les concerts. Moi, je sais que vous êtes des fervents adeptes de cette musique-là, mais peut-être avec d'autres activités parallèles. Inavouable?
Non, rien d'inavouable, mais le blues, effectivement, c'est pas une activité en tant que telle pour moi, mais c'est une vraie passion. Je suis tombé dedans il y a longtemps et voilà, ça fait vraiment partie de ce que j'aime beaucoup et je contribue comme je peux à soutenir en tout cas ceux qui la jouent.
Ceux qui la jouent, que ce soit des gens qui nous viennent de loin, comme la semaine dernière au Subok, Neil Black et Janet Martin, ou des gens qui sont tout près, genre à 1m50 de toi, Laurent Choubrac, c'est ça en fait le
conseil. Oui, exactement. Oui. Et c'est vrai qu'à la fois l'écoute sur disque ou l'écoute en concert, c'est très complémentaire et j'aime beaucoup les deux.
J'ai une question pour François qui nous a apporté deux disques que je passe jamais, en fait, même des artistes que je passe jamais dans l'émission. On peut dévoiler les noms déjà ou... François, oui.
Au moins le premier.
Au moins le premier. Alors, je te laisse nous le présenter parce que un garçon qui a cassé sa pipe il y a fort longtemps, mais qu'on devrait continuer à passer dans les écoles de blues, qu'on devrait en tout cas faire écouter à tous les apprentis bluesman, JB Lenoir.
Alors, je ne sais pas si on devrait faire le forcing pour qu'on écoute JB Lenoir. Il est clair que JB Lenoir, c'est un des premiers artistes de blues que j'ai écouté, que j'ai découvert avec passion. En fait, c'est assez indirect. Hein, c'est à travers un enregistrement de John Mayall dans les années, fin des années 60, mm-hmm. donc, sur un disque qui s'appelle The Turning Point, où il y a un disque qui s'appelle I'm Gonna Fight For You, JB. Donc, je me dis, bah, qui est ce JB? Et donc, je suis tombé sur JB Lenoir et j'ai découvert JB Lenoir. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, naturellement, surtout ce qu'il raconte, ce qu'il aborde, la ségrégation en Amérique du Nord, notamment. Mmh.
Voilà. Alors, JB Lenoir nous a quittés il y a plus de 50 ans. On continue à parler de lui comme de pas mal d'autres bluesmen, finalement, parce que, alors lui, est-ce qu'on peut dire de lui qu'il a été un des fixateurs du blues, un des créateurs, un des pionniers? À ton avis, bien sûr, François.
Alors, j'ai dit que je n'étais pas musicien, je ne suis pas historien du blues, loin de là, donc je ne connais pas beaucoup de choses, je dirais, anciennes sur le blues. Voilà, je pense qu'en effet, il a eu sûrement une importance pour inspirer d'autres musiciens. Il s'est aussi inspiré avec d'autres musiciens. Il y avait une sorte de, je vais pas dire de couple avec Skip James, notamment. Mais
Arnaud dit que si.
Arnaud dit
que c'est... des révélations à nous faire.
Non, c'est pas une révélation, c'est juste que j'entends JB Lenoir et Skip James, ça me fait tout de suite penser à Illinois Blues, qui est des morceaux...
Et on va arriver à un autre Arnaud, donc avec les superbes reprises, avec un style particulier d'Arnaud Fradin et son Combo Roots.
Tiens,
son Roots Combo, avec, d'une part... le morceau que j'aimerais bien que tu nous passes à
If I
un
get
moment
lucky,
donné.
C'est
et,
ça
If I Get Lucky.
Oh ben
et Illinois Blues de Skip James, qui est extraordinaire. Le morceau d'origine et l'interprétation d'Arnaud Fratin des deux blues combo.
On va écouter JB Lenoir, If I Get Lucky, on en parle juste après. François, Arnaud, Laurent, dans l'émission.
If I get lucky. Just make my train for home. If I ever get lucky, hey, make my train for home. I believe I will leave. Mother told me, JB, you better watch your step. My mother sat down and told me, JB, you better watch your step. One day you may fall down, and you gon' need somebody's help. Sometime I wonder, would any world gon' become on me? Sometimes I just sit and wonder, what in the world gonna become of me? Will I be living here on earth, or will I be living misery? Thank you.
Bah, super version. Merci François d'avoir exhumé ce trésor du blues avec donc ce disque d'Alabama de
J.B. Noir.
Alabama. Tiens, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir une raison. Tiens, j'ai un petit truc à vous faire écouter à tous. Vous êtes attentifs toujours. J'en profite. Écoutez-moi ça. Ça va vous parler. Ça va te parler, François. Voilà, avec l'ami Thomas Troussier à l'harmonica, ancien compère de radio, et bien sûr Arnaud Fradin au chant. Voilà, donc petit clin d'œil, François, hein, c'est la version que tu citais tout à l'heure. Arnaud Fradin.
Un très grand merci, Marc, parce que c'est vraiment. Arnaud Fradin, Malten Bilk, etc. Mais ce projet-là, il est vraiment superbe.
Ouais.
Et avec des interprétations aussi bien. Je trouve que la voix d'Arnaud Fradin ressemble justement un peu à la voix de J.B. Lenoir, mm-hmm. un peu dans les aigus.
Et quand il fait du Skip James, c'est pas mal non plus. Hein.
Et tout à fait. Ah. Et Illinois Blues sur ce disque est vraiment super. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de les voir en concert. J'ai eu la chance de les voir dans un petit bar à Vannes l'année dernière. Mm-hmm. Et vraiment, c'est extraordinaire. Puis une générosité tous les quatre, avec Igor Pichon notamment. C'est vraiment super.
Et oui, alors Igor et Thomas, qui sont des amis normands, Laurent, une réaction par rapport à ce répertoire-là ? C'est quelque chose que tu... C'est un groupe que tu pourrais intégrer ? C'est quelque chose que tu ferais ou pas forcément ? Ça, c'est de la reprise.
Elle est un peu pourrie, ta question. Qu'est-ce que je réponds à ça ? Ouais, j'aimerais bien, moi, mais... Non.
J'en ai d'autres, rassure-toi.
Oui, je me doute bien. Moi, j'ai vu Motil Mill il y a pas très longtemps, il y a peut-être...
Je vais pousser la télé, parce que maintenant, on regarde la télé.
Oui, parce que je regarde en même temps que je te cause, donc si tu pouvais l'enlever, merci. Non, Molten Milk, oui, ça envoie du lourd, ça, Arnaud Fradin, oui. Igor, qui est quand même un guitariste exceptionnel et qui est passé à la basse et qui est un bassiste exceptionnel. Donc ça nous a, enfin, dans le milieu musical, on est tous un peu bluffés quand même.
Ça nous a tous scotché, Igor, tu nous scotches depuis des années.
J'ai juste une anecdote sur Igor quand même. Oui, c'est la première fois que je l'ai entendu. Je jouais au Gloupot.
C'était quoi, en 2000, 2001?
2000, ouais, début des années 2000. Mmh. Et je jouais avec mon vieux groupe, là, avec Cap Sanat.
Ah oui.
Puis à un moment, il y a Eddy Leclerc qui est venu faire le bœuf. Mmh. Et puis, il y avait Igor que je connaissais pas. J'étais avec un pote qui, bon, les bœufs, ça lui cassait un peu les pieds. Là, je discutais au bar.
Eddy Leclerc, excuse-moi, juste pour situer, c'est l'actuel guitariste maintenant de Rumble de Jungle.
Voilà.
Ouais, lui aussi, il a quand même réussi quelque part.
Et qui a commencé avec nous quand il avait 16 ans, voilà. Avec un ami qui est un super guitariste. Et donc, j'étais avec un copain au bar. J'avais laissé les musiciens faire le bœuf. Et le copain est parti. Il est arrivé à la porte, le bœuf a démarré, il a fait demi-tour, il est revenu. Il m'a dit, c'est quoi ces extraterrestres ? Et donc, là, il y a eu un échange entre Igor à la guitare et Eddy. Je ne crois pas que j'ai repris la guitare après, moi. Je les ai laissés.
T'as prétexté un verre de trop pour dire...
Voilà. Donc, juste pour l'anecdote, parce que c'est vraiment des super musiciens. Ce projet-là, sur des choses plus soft, plus Route, ben je trouve que c'est... Alors, je connais pas extrêmement bien, mais c'est vachement bien. Voilà, c'est des super musicos et qui étaient bons déjà très jeunes. Donc, ça énerve un peu, quoi.
Alors, qui étaient bons, et j'ai envie de dire, pour être bon même après, il faut être bon dès le début. C'est le cas de tous les musiciens, quand même. Enfin, il y a un don au départ, il n'y a pas que du boulot.
Je sais pas. Moi, le don, j'y crois pas trop.
Ouais.
Par contre, la passion... Et des gens qui font que ça, qui n'aiment que ça.
Ça compense tout le reste.
Oui, parce ouais. que, enfin bon, ces fameux trucs de Brassens, enfin, le talent, c'est 95% de travail, si tu veux. Mais voilà, c'est des gens qui vivent musique, qui pensent musique, qui sont tout le temps là-dedans. Je crois que c'est ça aussi qui fait la différence. Mmh. Et en être pour certains, j'imagine, très invivable dans le privé, enfin, dans toi, enfin, quand t'es complètement là-dedans, pour ta famille, pour tous les gens qui t'entourent, des fois c'est un peu pénible quand même, hein, les passions. Hein,
Arnaud, Jacques, peut-être Charles aussi, François, la passion, c'est un truc qui dévore et qui va jusqu'à phagocyter la vie familiale ou professionnelle. Arnaud, non?
Phagocyté, non, parce que ben, moi, c'est une passion d'écoute, c'est pas une passion de pratique, mais j'entends mon fiston qui a une dizaine d'années. Oh, papa, t'es obsédé avec ton blues. Ah. Hein.
Bon, alors, est-ce qu'un amateur de blues est mal entouré ou tout simplement il ne sait pas convaincre les autres? C'est un grand débat, ça.
Bon, je ne sais pas si. Non, c'est pas mal entouré, il a 10 ans, ça va venir.
Non, quand je dis mal entouré, je ne parlais pas des enfants, bien entendu. Non, mais voilà, est-ce qu'il faut que toute la famille collabore forcément, adhère, ou on peut vivre ça tranquille dans son coin une fois de temps en temps? François?
Alors,
ça se passe bien chez toi?
Maintenant, oui. Ah.
Je crois, ouais, ça se passe bien.
Disons que c'est un peu difficile, en effet, de ne pas pouvoir partager des passions, notamment musicales. Je le répète, je ne suis pas musicien, donc je suis amateur, donc j'écoute en effet beaucoup de blues, mais pas que du blues. En fait, je suis arrivé au blues à travers le jazz. Hein. Je suis plutôt un amateur de jazz au départ. Et,
merde, il y en a un dans la bande.
Ouais, je suis d'accord.
Non, je suis à moitié, moi.
Mais on le sait.
Et donc c'est naturellement beaucoup plus intéressant pour moi de partager ça. Donc partager ça avec mes enfants, avec ma compagne. C'est une chose intéressante dans la musique.
C'est une passion
de pouvoir le partager éventuellement avec les artistes quand on a cette chance. Mm-hmm. Jack parlait tout à l'heure de belles rencontres. Alors quand on n'est pas photographe, les rencontres sont peut-être un peu plus difficiles.
Ça dépend parce que quand on sait danser, on peut aller voir Sandra Hall sur scène.
Je pense que.
Et là, ça se passe très bien.
Je te rappelle que ce soir-là, je n'ai pas dansé. Hein, où j'étais très très proche, en effet, de Sandra Hall.
Ah oui, c'est
clair. Voilà, et donc ça fait tout le tour de la Terre.
C'est vrai.
En effet.
C'est vrai, on a des preuves sur image. Voilà. Et d'ailleurs, elle revient à l'automne. Hein. Enfin voilà, je dis ça, j'ai
d'accord.
rien.
Ok. Ça viendra ma famille, alors.
Bien sûr. Arnaud, on parle de proximité avec les artistes. Toi, tu aimes bien aller voir les musiciens à la fin de leur concert, les saluer, les féliciter, les remercier?
Déjà, j'aime bien les voir, les écouter. Ouais, ouais. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion, parce que bon, je suis pas un globe-trotteur des concerts, mais j'en ai fait quand même beaucoup. Et de toutes les tailles de concerts, et je me rends compte que plus ça va, et plus j'ai tendance à apprécier les concerts dans des ambiances de proximité, comme c'est au Sous-Bock, par exemple, pour ne pas le citer. J'ai eu l'occasion de faire des concerts dans des grandes salles de grands artistes. C'est bien, un grand artiste, c'est toujours extraordinaire, mais cette proximité qu'on a avec des artistes, parfois et même souvent moins connus, mais dans une petite salle où on est à 5 mètres, ça n'a rien à voir, et finalement, c'est ça que je préfère.
François ?
Tout à fait d'accord. Moi, j'ai eu la chance de voir des grands artistes. On en reparlera peut-être tout à l'heure.
Mais on peut en parler dès maintenant, si tu veux, si tu as des noms à nous proposer.
disons que, pour parler du deuxième disque, on parlera du lieu où ça s'est fait.
Eh ben,
je partage tout à fait l'avis d'Arnaud. La proximité, le fait, et on va reparler du Sous-Bock éventuellement, le fait d'être en effet, de temps en temps, éventuellement avec Manu Lorvin qui a posé le pied entre le verre et l'assiette de ta propre chaise, c'est très intéressant. En effet.
Laurent, ça c'est quelque chose que tu peux aussi vivre de l'autre côté de la scène. Quand tu n'es pas sur scène, tu vas souvent voir des concerts.
Ouais.
Sans reparler du Sous-Bock une troisième fois, mais il y a des endroits quand même qui sont un peu privilégiés pour la proximité avec l'artiste.
Moi j'aime bien les...
Et toi, je sais que tu aimes bien les grands
alors j'aime bien les grands parce que les gens que je vais voir, c'est des gens malheureusement que je vois de moins en moins parce qu'ils ont un peu tendance à disparaître vu leur âge.
Allez, Bruce Springsteen par exemple.
Ah ouais, mais Springsteen...
voilà. Non, mais... Tu l'as vu combien de fois?
Je l'ai vu 8 fois. Ah,
tu t'en lasses jamais?
Je peux pas. Non. Et je regrette tous les concerts que j'ai pas pu voir.
Ah oui, mais
alors, ceux où il est passé où j'ai pas pu aller.
À mon avis, il y a un seul musicien qui a assisté à tous les concerts de Bruce Springsteen, c'est Bruce Springsteen lui-même.
N'est-ce pas? Non, mais je parle de ceux qui sont passés en France, parce que j'en ai raté pour des histoires de boulot et où des fois je suis pas venu. Mais alors ça, j'adore, mais ça c'est parce que c'est de la légende, si tu veux, c'est-à-dire que quand Springsteen attaque et qu'il t'en met, et tu sais que t'en as pour 3 heures, voire 3h50. C'est un énorme plaisir. Alors après, t'as des concerts un peu. Il y a le problème du son dans les très grosses salles.
Ouais.
Dernier concert des Stones, c'était pas très très bon. Enfin, là où j'étais en tout cas. Dans la fosse, c'était mieux. Le problème, c'est que moi, vu mon âge, je tiens plus 4 heures debout dans la fosse. C'est pas possible. voilà. Donc, j'adore les concerts type Olympia parce que, alors, ça coûte cher, mais t'es super bien assis. Le son est à tomber. Donc, ça, c'est pas désagréable. Et puis, j'aime bien les petits concerts. Et puis, j'aime bien être dans un bar et me prendre une claque parce que t'as un mec qui passe et tu sais pas qui c'est. Tu vois, par exemple, un des derniers concerts où j'étais vraiment scotché, on était ensemble, c'était celui de Chris Bergson au BBC. Oui. Et ouais. Bon, après tu vas discuter avec lui, il est adorable, il est sympa comme tout, voilà, donc je pense qu'il faut tout, hein, et puis bah faut continuer au concert, quoi. Donc
on a bien compris le message, Laurent. Voilà. Ça c'est vrai, la musique elle se vit en live, hein, comme disait Boris Vian, les bananes ça se déguste là où on les fait pousser, la musique c'est sur scène. François, on évoquait Roy Rogers, hein, on va donner le nom maintenant, parce que c'est le deuxième album que tu nous
donc
as
apporté. Fait.
Eh ouais. Alors pourquoi Roy Rogers avec The Delta Rhythm and Kings, un disque que j'ai encore jamais passé dans la radio, ça va être l'occasion aujourd'hui grâce à toi.
Alors en fait, c'est une expérience de concert. Alors le morceau qu'on va entendre n'est pas la version que j'ai entendue dans ce concert dont je vais parler. Il se trouve que dans les années 80, je vivais à Montréal, au Québec. Et comme vous le savez, il y a un festival de jazz qui est internationalement reconnu. Et donc j'étais en 89-90. Et en 90, c'était donc le 11e anniversaire. J'avais fait déjà le 10e anniversaire. J'avais déjà vu pas mal de grands artistes de jazz. Et il y avait une petite scène blues, petite parce que pas très grande, mais avec éventuellement des invités. Sûrement le sponsoring d'une marque de bière devait aider à faire venir ces artistes.
C'était pas la maudite, non?
Non, c'était la Labatt Bleue.
Ah, la Labatt Bleue, elle est aussi, ouais. La Labatt Bleue.
Et donc, c'est fin juin, début juillet, à Montréal, il fait très chaud, c'est très sympa. Ça se passe dans la rue, c'était à deux quartiers de chez moi, donc je partais tôt du boulot, on va dire, et je ne dormais pas beaucoup cette semaine-là. Et puis, donc c'était une semaine où j'avais déjà vu sur cette scène Robin Ford, Lonnie Mack, un harmoniciste, Little Mike, avec son groupe de Tornadoes, et qui était accompagné ce soir-là de Pine Top Perkins au piano.
Ah oui, c'est pas n'importe qui.
Et de Herbert Sumlin à la guitare.
Effectivement,
voilà. Lazy Lester, The Nighthawks avec Jimmy Hall. Histoire de s'amuser un peu, et puis des bons groupes du coin. Et puis un soir, je n'avais pas tellement fait attention au programme ce soir-là, et donc j'ai vu arriver un groupe, donc un batteur, un bassiste, hein, et puis quelqu'un qui vraisemblablement allait jouer de la guitare, un guitariste, donc vraisemblablement chanteur. Et quelques réglages. Et puis le guitariste, il dénotait un peu dans la façon dont il était habillé par rapport au moins au look de l'époque. Hein. C'était fin des années 80, donc c'était plutôt t-shirt ou débardeur, cheveux longs. Lui, il était pantalon beige, une chemise blanche boutonnée avec ses manches longues, une petite cravate texane, un petit...
Habillé comme son père, quoi.
Je connais pas son père, donc avec un gilet de costume, un chapeau assorti et tout, une petite barbe en collier qui était, un mec plutôt sympa, mais qui dénotait et tout. Et puis il branche sa guitare, il lance un « good evening », et puis il regarde ses musiciens et il attaque sa guitare. Il attaque parce que sa façon de jouer, pour moi qui suis pas un guitariste, était vraiment assez. J'avais jamais vu ça, quoi.
La guitare s'en est ressortie.
La guitare s'en est ressortie. Autant que je sache, il joue toujours avec cette guitare.
Toujours la même.
Les spécialistes vont comprendre. Moi, j'ai appris ça. C'est une Martin 016.
Ah ben,
Laurent,
ça te parle, ça, Martin.
Voilà. Et avec un son extraordinaire.
Il y en a une à 2 mètres de toi.
Alors non, c'est une 0,15, mais
J'avais remarqué que ça ressemblait quand même beaucoup, malgré mon incompétence en guitare. Et donc, il a enchaîné plusieurs morceaux de Robert Johnson, dont un peut être le troisième morceau, peut-être, qu'il a enchaîné dans le concert, où franchement, je comprenais plus où était la référence à Robert Johnson, tellement il avait aménagé ce morceau.
D'accord.
À sa façon de jouer. Donc il joue slide guitare, et en fait il mélange en permanence de la rythmique du slide. On a l'impression qu'il avait, je vais pas dire deux mains gauches parce que ça pourrait être mal pris, mais au moins une vingaine de doigts sur le manche de sa guitare. Et franchement, c'est cette émotion là qui m'a encore plus fait aimer le blues en concert. Et d'autant plus que en plein milieu du morceau, ce que j'ai rarement vu, ça existe bien sûr, mais ce que j'avais rarement vu au moins à l'époque, il a laissé une place vraiment phénoménale à son bassiste, qui nous a fait un solo extraordinaire. Voilà. Donc la version que je propose de ce morceau de musique, c'est pas cette version-là, c'est une version qui a été enregistrée plus d'une dizaine d'années après. Donc je pense qu'ils l'ont rodé un peu dans
mais c'est une version live quand même. Donc
c'est une version live, en effet, qui a été enregistrée en Californie lors d'un concert. Donc c'est en effet Roy Rogers and the Delta Rhythm Kings, et c'est Terraplane Blues.
On écoute ça grâce à toi, François.
Terraplane Blues.